Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 12 juin 2019. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Fin du mouvement de désobéissance civile à Khartoum pour donner une chance aux pourparlers avec les généraux. Deux nouveaux cas d'Ebola ont été confirmés en Ouganda après la mort d'un enfant de 5 ans. Deux embarcations transportant 111 migrants africains sont recherchées depuis mardi entre le Maroc et l'Espagne. 88 morts dans l'extrême nord du Cameroun lors d'une attaque de Boko Haram dimanche soir à Darak, selon un nouveau bilan du gouvernement. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Soudan, reprise des activités à Khartoum après la décision des contestataires de mettre fin au mouvement de désobéissance civile. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Beaucoup d'habitants de Khartoum ont préféré rester chez eux malgré la réouverture de certains magasins, le fonctionnement des transports publics et l'appel de la contestation à reprendre le travail. « Je continue de rester chez moi car je suis inquiet de la présence des forces de sécurité », a expliqué un habitant de Khartoum. Un représentant de la médiation éthiopienne a annoncé hier que les deux camps ont accepté de reprendre les négociations sans donner de date. Les pourparlers ont été suspendus le 20 mai, chaque parti voulant diriger la future instance de transition. Une campagne de désobéissance civile avait été lancée dimanche pour maintenir la pression sur les généraux. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné les violences contre les civils et appelé à la reprise du travail. Après le passage à Khartoum du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique, Tibor Nagy, doit se rendre sur place pour rencontrer les représentants de chaque parti. Le département d'État a précisé que l'émissaire américain va appeler à la fin des attaques contre les civils.
88 morts dans l'extrême nord du Cameroun lors d'une attaque de Boko Haram dimanche soir à Darak. Parmi les victimes, 16 militaires camerounais, selon un bilan officiel rendu public par le ministère de la Défense. 8 civils sont également parmi les victimes. Le communiqué précise que l'attaque a été menée par plus de 300 combattants lourdement armés. Dans la nuit du 9 au 10 juin, 64 djihadistes ont été neutralisés, 8 capturés. Plusieurs autres blessés et en fuite, et 3 embarcations ont été détruites. Au Ghana, 8 personnes, dont 5 Ghanéens et 3 Nigérians, ont été arrêtées lors de l'opération de libération des deux jeunes Canadiennes enlevées il y a une semaine. Les détails avec Arzuma Compaoré.
5 Ghanéens et 3 Nigérians sont actuellement en garde à vue. L'un d'eux a été blessé lors de l'opération de sauvetage des otages qui a duré 25 minutes et s'est déroulée mercredi à l'aube, a déclaré le ministre de l'Information Kodjo Opong Nkrumah au cours d'une conférence de presse à Accra. Les victimes, quant à elles, ont été convoyées par avion à Accra, a assuré le ministre. Lauren Tilley et Bailey Chiti, les deux étudiantes âgées de 19 et 20 ans, ont été kidnappés le 4 juin au soir en sortant d'un taxi devant le Royal Golf Club de Kumasi, à environ 250 km au nord de la capitale Accra. Elles étaient des volontaires travaillant pour Youth Challenge International, une ONG d'entraide canadienne. Une troisième jeune femme qui se trouvait dans le véhicule n'a pas eu le temps de sortir lorsque ses deux camarades ont été enlevés.
En République démocratique du Congo, près de 300 jeunes du parti de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, ont mis en garde ce mercredi les partisans du président Félix Tshisekedi contre des violences sur des élus de la majorité parlementaire. Des manifestants du PPRD coiffés de bérets rouges ou de foulards jaunes noués autour de la tête ont manifesté au même endroit où, deux jours plus tôt, des partisans du parti présidentiel UDPS aurait brutalisé des élus. Après la République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola touche maintenant l'Ouganda. Un garçon de 5 ans est décédé en revenant de la RDC avec sa famille. Claire Morin-Gibourg.
Le ministère ougandais de la Santé a confirmé le premier cas de virus Ebola. Un garçon âgé de 5 ans est décédé ce matin dans un hôpital du district de Kasese, frontalier avec la RDC. De mère congolaise et de père ougandais, ce garçon s'était rendu avec toute sa famille au chevet de son grand-père maternel, atteint d'Ebola et décédé à la fin mai. À son retour en Ouganda, le garçon a commencé à être malade. Sa grand-mère et son petit frère sont aussi contaminés et toute la famille a été mise en quarantaine. Ces trois cas ont été confirmés par le ministère de la Santé alors que le pays est en alerte depuis le début de l'épidémie il y a 10 mois dans l'est de la République démocratique du Congo où plus de 2000 cas ont été recensés.
L'ancien premier ministre algérien Ahmed Ouaya a été placé en détention provisoire à l'issue de son audition par un juge d'instruction. Monsieur Ouaya et l'ex-ministre des Travaux publics Abdelghani Zalane étaient entendus par un juge de la Cour suprême. Il figure parmi les 12 anciens ministres et préfets dont le parquet d'Alger a transmis les dossiers à la Cour dans le cadre d'enquêtes visant l'homme d'affaires Ali Haddad sur des faits présumés de corruption. La police marocaine a annoncé la saisie de 12,8 tonnes de résine de cannabis à bord d'un camion sous fausse plaque d'immatriculation dans la région de Nador. 3 suspects ont été arrêtés et des armes blanches saisies, indiquait la Direction générale de la Sûreté nationale. Un des suspects faisait l'objet d'un avis de recherche pour organisation d'opérations d'immigration illégale et de traite humaine, selon la DGSN. 2 embarcations transportant 111 migrants africains sont recherchées depuis mardi entre le Maroc et l'Espagne, indique le service espagnol de sauvetage en mer. Un avion de l'armée, un navire de recherche et un hélicoptère des sauveteurs, 2 patrouilleurs de la garde civile espagnole ainsi qu'un patrouilleur de l'armée marocaine participent aux recherches. 200 Kenyans ont manifesté à Nairobi contre le projet de construction de la première centrale au charbon d'Afrique de l'Est, près de l'archipel de Lamu. Le Tribunal national pour l'environnement doit rendre un jugement sur le futur de cette centrale le 24 juin, avec un accès aux énergies éoliennes, solaires, géothermiques et marémotrices. Le potentiel du Kenya en énergie renouvelable est rentable et ne cause aucun mal aux gens et à l'environnement, a déclaré Omar Elmo, coordonnateur de campagne pour l'ONG Decolonize.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Hong Kong a été secoué aujourd'hui par les pires violences depuis sa rétrocession à la Chine. La police a tiré des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène sur des manifestants qui tentaient de faire irruption au Parlement. Eric Manirakiza.
Des dizaines de milliers de manifestants vêtus de noir, pour la plupart des jeunes gens, sont à nouveau descendus dans les rues pour dénoncer un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine. Les affrontements ont éclaté près du Conseil législatif, où le texte devait être débattu en seconde lecture. Les forces de l'ordre ont repoussé les manifestants à coups de matraques et de gaz poivre. Ils ont aussi tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes en vue d'évacuer un côté du Parlement encerclé. La police semble déterminée à ne pas céder du terrain. La chef de l'exécutif local, Carrie Lam, exclut de retirer le texte dans une vidéo. Elle a dénoncé des émeutes organisées inacceptables. Ces affrontements rappellent le mouvement des parapluies durant l'automne 2014, quand plusieurs milliers de manifestants avaient paralysé pendant 2 mois des quartiers entiers de la mégapole.
La coalition dirigée par l'Arabie Saoudite au Yémen a promis une riposte rapide et ferme à une attaque au missile ce mercredi contre l'aéroport international saoudien d'Aba, dans laquelle 26 civils de différentes nationalités ont été blessés. L'attaque a eu lieu 2 jours après l'interception par la défense antiaérienne saoudienne de 2 drones lancés par les rebelles houthis du Yémen. Le président américain Donald Trump a affirmé ce mercredi qu'il rencontrerait son homologue russe Vladimir Poutine en marge du sommet du G20 qui se tiendra fin juin au Japon. Il l'avait déjà annoncé en mai, mais le Kremlin avait alors indiqué qu'il n'y avait pas d'accord sur une rencontre bilatérale entre les deux hommes. Et le cyclone Vayu s'est renforcé à l'approche de l'Inde, dont il devrait atteindre les côtes occidentales jeudi avec des vents jusqu'à 180 km/h. Le gouvernement de l'État du Gujarat compte évacuer 300 000 personnes des zones côtières, mais fait face à des réticences de la population. Plus de 225 000 personnes ont été placées dans des abris. Les prévisionnistes ont demandé aux pêcheurs de ne pas sortir en mer, escomptant des vagues jusqu'à 5 mètres de haut au cours des deux prochains jours. L'armée indienne et les gardes-côtes sont en état d'alerte. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique, c'est à présent avec Nani Talani pour la Minute Éco.
Pour la saison 2020-2021, le Ghana et la Côte d'Ivoire vont arrêter les ventes du cacao qui doit être récolté à partir d'octobre prochain, dans l'attente d'un accord avec les industriels sur un prix minimum garanti aux producteurs. Ce prix commun vise notamment à réduire les disparités de revenus qui règnent le long de la chaîne de valeur du cacao. Selon l'agence Bloomberg, les deux pays envisagent de fixer un tarif plancher de 2 600 $ la tonne de cacao pour compenser le manque à gagner des producteurs. L'Union européenne annonce un financement de 152 millions d'euros en faveur de 7 pays du Sahel pour venir en aide aux populations défavorisées, victimes des conflits armés et du changement climatique. Il devrait leur fournir une aide alimentaire, des soins de santé d'urgence, de l'eau potable, un abri, une protection et une éducation pour les enfants. Le Nigeria recevra près de 28 millions d'euros, le Tchad 27,2 millions d'euros, le Mali 23,55 millions d'euros et le Niger 23,15 millions d'euros. Le Cameroun devrait bénéficier de 17,8 millions d'euros, le Burkina Faso de 15,7 millions d'euros et la Mauritanie de 11,15 millions d'euros. Terminons avec la Sonatrach, société publique algérienne des hydrocarbures, qui a signé un accord avec le Portugais Galp pour prolonger ses exportations de gaz vers le Portugal de 10 ans supplémentaires. Sonatrach expédiera 2,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an vers ce pays.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Mondial féminin France 2019, le Nigeria s'est relancé.
Et oui, les Super Falcons ont remporté leur deuxième match face à la Corée du Sud 2-0. Doyon Kim a permis aux Nigérians d'ouvrir le score en première période en marquant contre son camp. En deuxième partie, la Corée du Sud a cru un instant avoir écoulé au score grâce à une frappe victorieuse de Geumin Lee, mais le but a été refusé pour cause de hors-jeu. Et ce sont bien les Nigérians qui ont finalement réussi à asseoir leur emprise grâce à un beau but d'Assisa Oshoala. Avec cette victoire, la meilleure nation africaine respire un peu mieux. Malgré sa défaite inaugurale face à la Norvège 0-3, avec 3 points, elle peut encore espérer se qualifier pour les huitièmes de finale.
Youssef M'Sakni, de retour parmi les aigles de Carthage.
L'attaquant vedette de la sélection tunisienne, forfait sur blessure au Mondial, est de retour dans la liste des 23 retenus pour la CAN. En revanche, le défenseur d'Al Ahly, Ali Maloul, a été remplacé dans le groupe par le milieu Karim Awadi. Youssef M'Sakni, milieu de peine, jouera aux côtés du capitaine de Montpellier, Elias Skiri, et des attaquants de Saint-Etienne, Wabi Kazri, et de Nice, Bassem Shrafi. Le technicien français Alain Giresse a sélectionné 12 joueurs évoluant à l'étranger, mais la plupart sont déjà soudés par un parcours commun en Coupe du Monde en Russie, où ils ont été éliminés après deux défaites. Les Aigles débuteront la compétition le 24 juin face à l'Angola.
Le sélectionneur des Lions de la Teranga a aussi tranché.
Aliou Cissé a pris les 23 joueurs qui, selon lui, portent le costume de favori. Ils étaient au départ 25 avant le dernier match amical joué et remporté 7-0 face à Mercy. Les deux derniers noms supprimés de la liste par le technicien sénégalais sont Sidi Sarr, milieu de terrain de Châteauroux, et l'attaquant de Nantes prêté à Nancy, Santingom. C'est avec cette liste définitive qu'Aliou Cissé va continuer les préparatifs dans la ville d'Alicante, en Espagne. Le Sénégal croisera en amical le Nigeria le 16 juin.
En cyclisme, Chris Froome doit renoncer au Tour de France.
Une grave chute à l'entraînement a anéanti les chances du Britannique, forfait bien sûr pour le Dauphiné, mais surtout d'ores et déjà pour le Tour de France qu'il envisageait de gagner pour la 5e fois cet été. Chris Froome souffrirait d'une fracture ouverte du fémur selon un témoin présent sur les lieux de l'accident. Le quadruple vainqueur du Tour de France utilisait l'épreuve alpestre comme un test à l'approche du Tour. La blessure du Britannique de 34 ans, dont la gravité reste à confirmer, confirmée serait toutefois la plus sérieuse dans sa carrière depuis qu'il est arrivé au plus haut niveau au début des années 2010.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Mali, la tuerie dimanche soir dans le village d'Ogon de Sobane, dans le centre du pays, a fait 35 morts, selon un dernier bilan avancé par le gouvernement. Auparavant, les responsables locaux avaient annoncé près de 100 morts. Idriss Fall a recueilli la réaction de Marie-Evelyne Barry, directrice d'Amnesty International en Afrique de l'Ouest, basée à Dakar.
Tout d'abord, cette spirale de violence qui, à chaque fois, fait plus de morts. Que des enfants ne puissent plus aller à l'école, que des communautés entières ne puissent plus survivre à leurs besoins. Ce qui est essentiellement inquiétant dans ces massacres, c'est qu'ils restent impunis. Les autorités ne prennent pas leurs responsabilités pour faire des enquêtes, pour arrêter les coupables et pour arrêter cette spirale qui ne va pas finir. Tant que l'impunité continue, la violence va continuer. D'autre part, Amnesty pense que le mandat de la MINUSMA devrait être renouvelé, mais avec un mandat axé spécifiquement, un, sur la protection des civils, deux, sur la gestion de l'impunité, et trois, sur un système de justice transitionnelle qui va permettre que ces choses-là s'arrêtent, que la population puisse entrer dans un processus de réconciliation et que surtout, il n'y ait pas de protocole d'entente qui vont générer des lois d'amnistie et perpétuer l'impunité.
Est-ce que le gouvernement malien a les moyens? Parce qu'il y a eu un massacre à Ogossagou, on parlait de 160 morts, il y a eu un autre massacre le 1er janvier, il n'y a jamais eu une seule arrestation.
La question des arrestations n'est pas juste une question de moyens. Il y a une mission des Nations Unies avec d'énormes moyens qui pourrait avoir davantage de focus, mettre la priorité sur la protection des civils. La deuxième chose, le gouvernement malien est actuellement appuyé pour pouvoir gérer les questions de justice, pour pouvoir gérer les questions de justice transitionnelle. Ces questions-là, les questions de massacre devraient être les questions prioritaires à gérer. Et si les questions d'impunité sont des questions qui sont gérées prioritairement, on va assister à une courbe inversée de la violence. Mais tant qu'il n'y a pas une volonté politique, tant nationale qu'internationale, au niveau de la responsabilité de ceux qui sont les garants des droits humains, la situation va empirer. Et ce qui nous inquiète, c'est que ça empire de manière exponentielle, dans l'indifférence totale, et le fait que les populations ne puissent plus avoir accès à leurs sources de revenus, que les enfants ne puissent plus avoir accès à l'école, qu'on tue des femmes et des enfants impunément, ça va générer d'autres troubles. Et donc il est absolument crucial que l'impunité s'arrête, qu'un système de justice transitionnelle axé sur la fin de l'impunité et la réconciliation ait lieu et qu'on travaille à aider les populations à avoir de nouveau accès à leurs droits pour enrayer ces situations de violence.
Marie-Evelyne Barry, directrice d'Amnesty International en Afrique de l'Ouest, était jointe à Dakar.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, coup de projecteur sur le cycle d'atrocités entre communautés antagonistes au Mali après une attaque meurtrière attribuée par certains survivants à une milice Peul dans un village d'Ogon. Pour le président malien, la survie du pays est en jeu. Comment expliquer de tels carnages? Les groupes djihadistes ont-ils exacerbé ce conflit dit communautaire? Le gouvernement de Bamako a-t-il un plan clair pour enrayer ces affrontements? L'appui des troupes étrangères n'est-il pas assez efficace? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h08.
Au Tchad, les caciques du parti au pouvoir, le Mouvement Patriotique du Salut, demandent à la représentation diplomatique américaine de ne pas s'immiscer dans la politique intérieure. Le 7 juin dernier, l'ambassade des États-Unis au Tchad avait demandé aux autorités tchadiennes de garantir la liberté d'association et de permettre à tous les citoyens de participer à la vie politique. Le point avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
Il faut avoir des ordres de l'étranger pour que notre président fondateur mette la machine en marche, pour que ses partis politiques soient agréés ou pas agréés. Ça, ce n'est pas utilisé.
Mohamed Zenbada, secrétaire général du MPS parti au pouvoir, il s'en est pris à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad alors qu'elle soutient l'intention des autorités de N'Djamena d'aller vite aux élections législatives dont l'échéance remonte à 2015. Selon la représentation diplomatique américaine, ce processus ne sera crédible que lorsque le gouvernement respecte les droits des citoyens de se rassembler, même si le but est d'inciter à voter contre le parti au pouvoir et donne l'autorisation sans délai aux partis politiques qui répondent aux critères légalement établis. Le cas du parti Les Transformateurs de Dr Succès Masra qui défrait la chronique. Pour Mohamed Zenbada, sa formation politique ne permettra à personne de lui donner de leçons de gouvernance.
Le Tchad est un pays souverain. Nous portons ici sur notre flambeau mourir pour le salut. Comme à l'époque, les hommes et les femmes se sont levés pour mourir pour la cause de la démocratie. Aujourd'hui encore, ces hommes et ces femmes sont là. Les élections ne sont pas dictées de
Le coordonnateur de la CACIDO, une coalition de la société civile proche du pouvoir, Mohamed Digandibaye, qualifie la position de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad d'une ingérence qui remet en cause les institutions de la République.
La CACIDO dit non à tout dictat d'une leçon de démocratie qui émanerait d'un État, aussi puissant soit-il. Nous disons aussi non à l'organisation des élections sous l'épée de Damoclès d'une puissance quelconque.
Pour Max Kamkoy, président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, il est inadmissible et même ridicule que le parti au pouvoir parle d'une ingérence dans cette situation.
En matière de valeurs universelles, les frontières plient face aux valeurs universelles. Et la démocratie fait partie de ces valeurs parce que c'est un bien commun. Pour toute autre chose, on parlait d'une ingérence. Quand le gouvernement français, à travers ses mirailles, sont venus violer notre espace aérien, opérer des bombardements pour tuer les Tchadiens ici. Mais si on met la Convention de Vienne et la Charte des Nations Unies, et c'est là où on trouve évidemment que ce sont des ingérences.
Docteur Evariste Garlam-Toldé, enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena, estime pour sa part que les caciques du MPS font de la gesticulation inutile.
Si on estime que l'ambassadeur a mal agi, ils n'ont qu'à le déclarer persona non grata. On ne peut pas comprendre que c'est des tirs groupés subitement sur l'ambassade des États-Unis de toutes parts. Et ce sont les proches du régime. Ils se disent démocrates, mais la démocratie, c'est d'abord respecter les moindres règles de la démocratie. Je crois que le président français qui a donné même une date de mai et qui est aujourd'hui caduque, il doit regretter ce qu'il a dit.
André Kodmajingar maintenant pour VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Ce 12 juin 2019, le Nigeria a célébré pour la première fois la journée de la démocratie. Il y a eu des débats intenses sur la meilleure façon de se souvenir de la jeune démocratie depuis que l'armée a quitté le pouvoir le 29 mai 1999. Un tournant dans l'histoire du pays. Voici le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Le 29 mai a toujours marqué la journée de la démocratie pour commémorer la date à laquelle l'armée a rendu le pouvoir aux civils en 1999. En juin 2018, le gouvernement nigérien a rendu hommage au regretté chef M.K. Abiola, présumé vainqueur de l'élection présidentielle annulée du 12 juin 1993. Alors, le président Muhammadu Buhari a décidé que 12 juin sera célébré comme la journée de la démocratie. Ainsi, pour la première fois, cette journée est célébrée au Nigeria. Il y a eu une impressionnante parade militaire. Les pas de danse du pays profond. Le militant Idriss Abdoul a été arrêté le 12 juin 1993 en compagnie d'autres personnes. C'est une date inoubliable pour lui.
C'est une journée très importante. J'ai été une victime moi-même. J'ai été arrêté. Le fait que depuis 1993, cette journée a été finalement reconnue par le gouvernement fédéral et par un ancien dirigeant militaire et ancien soldat, je pense que c'est très important pour nous. Il s'agit de se rappeler, il s'agit d'une évaluation de notre passé.
Bako Abdullahi Pierre, avocat et professeur à l'université d'Abuja.
Ils sont en train d'essayer de corriger l'injustice qui a été faite durant l'élection de 1993. Une élection qui a été considérée par les Nigérians comme libre et transparente. Mais les dirigeants élus n'ont jamais pu gérer les affaires du pays.
Le président Muhammadu Buhari, qui a déjà prêté serment, commence ainsi un second mandat.
Over the next 4 years, we are committed.
Pour les prochaines 4 années, nous sommes déterminés à mettre en place une forte équipe de Nigérians et alliés pour exécuter notre programme de transformation et de propositions.
La journée de la démocratie marque aussi 20 ans de démocratie. Plusieurs chefs d'État africains parmi eux, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Paul Kagame du Rwanda et Mamadou Youssoufou du Niger ont pris part aux festivités. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
À l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, nous revenons sur la lutte contre le trafic des enfants, notamment au Bénin, où les signaux sont toujours au rouge. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation menées depuis l'entrée en vigueur de la Charte sur la protection des droits de l'enfant, le gouvernement se fait ainsi aider par plusieurs organisations et centres de secours. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
La condamnation au Gabon en avril dernier d'une Béninoise à 10 ans de prison ferme pour trafic d'enfants remet sur le tapis ce sujet sensible. Le centre de référence au Bénin qui recueille les enfants abusés et exploités est tenu par des religieuses, les Salésiennes de Don Bosco. Sœur Marie Antonietta est au Bénin depuis 1992.
Dans notre projet, on avait écrit « Humaniser le métier des vidomégons », sont ces filles. Non, c'est-à-dire faire en façon qu'elles puissent découvrir qu'elles sont des personnes humaines, qu'elles peuvent faire autre chose. Et après, petit à petit, les aider à choisir quelque chose.
Des dizaines d'enfants franchissent la porte de la Maison de l'Espérance, des sœurs salésiennes. Parmi eux, Natacha, elle avait moins de 10 ans quand elle est venue pour fuir les mauvais traitements d'une dame à qui elle a été confiée. Aujourd'hui âgée de 20 ans et attend les résultats du baccalauréat.
Elle m'a placée au premier lieu. Je suis partie de chez la dame. De chez la dame, on est rentrée. J'ai passé à peine une semaine avec elle. Elle est encore allée me placer ailleurs. En tout cas, des placements sur placements chaque fois. Et un jour, je lui ai dit non, que je ne pouvais plus. J'avais déjà 8 ans, 9 ans. Je lui ai dit non, que j'en avais marre d'être placée. À chaque fois, elle recevait l'argent et qu'elle partait, moi, je devais subir le coup, que je ne voulais plus. Elle a dit non, que si je ne veux pas de me débrouiller seule, qu'elle n'a pas demandé à quelqu'un de venir dans la vie.
Ils sont nombreux, ces enfants béninois, qui, à l'image de Natacha, sont confiés à des ménages contre rémunération à leurs parents. Certains enfants sont envoyés au Togo, au Niger, au Gabon. Des associations travaillent pour freiner le phénomène. C'est le cas de l'ONG Enfants de Demain qui travaille dans les zones reculées du Bénin pour freiner le trafic transfrontalier. Pour Ernest Cachon, le chargé des programmes de cette ONG, la tâche est hyper difficile, surtout dans les communes reculées.
Au départ, la population était résistante. Qui n'a pas de traite dans la commune? Mais à force de donner la définition de la traite, de donner un peu les manifestations, la conséquence de la traite, ils ont compris. Nous avons pu récupérer 23 enfants victimes de la traite ou des enfants à risque puceux. Nous avons mené des actions curatives, mais aussi des actions à titre préventif.
Selon l'UNICEF, le taux des enfants exploités pour différentes tâches a franchi la barre des 52% et cela a connu une montée malgré la gratuité de l'école comme moyen pour repousser le phénomène. Pour Sœur Marie Antonietta, il faut qu'en plus de la sensibilisation, la répression commence pour que les enfants cessent de souffrir inutilement.
Le Bénin a signé la Convention des droits des enfants. Il y a la loi qui interdit le travail des mineurs de 14 ans. Et après, l'école serait obligatoire, en principe. Mais si les lois sont pas, s'il n'y a pas une sanction des gens, c'est ça.
En attendant l'éradication du phénomène au Bénin, des enfants privés d'école passent des journées entières dans les marchés et autres lieux de commerce et sont livrés en permanence à tous les dangers et toutes sortes d'abus. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Cheikh Thierrot. À la console, Justin Twaits. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à toutes et à tous et surtout bon courage.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Et tout de suite,